Si vous me posez une question un peu compliquée pour...
Okay. Alors bonsoir à toutes et à tous. Ce soir on se retrouve pour une nouvelle session de lundi soir. Pour rappel, lundi soir c'est une émission dans laquelle on essaye d'avoir un temps d'échange avec des invités qui, nous semble-t-il, sont importants parce qu'ils nous permettent de penser le présent. Et vous avez vu qu'il y a deux formats différents. Un premier qui est plus un moment un peu collectif avec plusieurs personnes dans lesquelles on va essayer de débattre et d'échanger sur des sujets actuels. Et puis on a un autre format, peut-être un peu plus confidentiel, dans lequel on prend un temps particulier pour essayer d'aller au fond d'une idée, alors que ça peut être une publication, ça peut être aussi en fait une expérience à raconter, ça peut être des sujets qui sont tout à fait variés. Et aujourd'hui on a le plaisir d'accueillir Sandra Lusberg qui va discuter de son livre Le ministère des comptes publics, qui est paru il y a très très peu de temps, et on est content de t'accueillir, Sandra, donc merci d'être venue.
Merci à vous.
Oui, et avant d'entrer un petit peu dans le cœur de ce livre, on aimerait revenir avec toi un petit peu sur ton parcours littéraire. Tu avais publié deux romans, en 2013 Mobile et en 2016 La Toile, avant de t'intéresser à des sujets à proprement parler politiques, avec notamment la suivi des procès France Télécom, dont tu avais publié beaucoup de choses sur lundi matin, et tu avais aussi publié un roman, Personne ne sort les fusils, à partir de ces procès France Télécom. Et là, donc, tu publies Le ministère des comptes publics, qui prolonge un long travail sur la déconstruction du langage managérial et du langage libéral au service de ce que tu appelles l'hégémonie. Et donc, ça serait un peu l'occasion de revenir un petit peu au départ sur la manière dont tu lis littérature et politique et la manière dont tu envisages la manière de critiquer le monde social à partir de la littérature.
Oui, alors écoute, juste les deux derniers livres, ce ne sont pas des romans. Je pense que c'est important parce qu'avant, c'était des romans, mais mon deuxième livre était déjà sur des sujets sociopolitiques en vérité. C'était sur le régime de pulsionnalité et le régime politique produit par le numérique massifié. Donc c'était déjà en plein dans les mêmes sujets, comment des formations discursives et des structures en dur produisent une certaine forme de société et qu'on ne perçoit absolument pas parce que ça se passe dans les algorithmes, etc. Donc en fait, j'étais déjà sur ces sujets-là, mais traiter la question numérique, c'était facile dans les armes du roman. Or, quand j'ai essayé de travailler sur plus exactement la macroéconomie et les structures du capitalisme financiarisé et la manière dont elles produisent une déstructuration plus exactement du travail et ici des services publics, je me suis rendu compte que le roman, ça marchait pas. J'ai essayé, hein, c'est longtemps. Et en fait, j'ai pas réussi parce que je restais enfermée dans la place de victime dans laquelle précisément on se trouve enfermée en permanence du fait de la logique hégémonique dont tu parlais tout à l'heure. Et tout s'est débloqué avec le procès France Télécom parce que j'ai vu dans la salle ce qui m'arrivait à moi, capturé dans la forme romanesque, c'est-à-dire un procès qui devait incriminer l'ordre néolibéral et qui en réalité était pris dans la direction néolibérale au point de ne pas pouvoir produire cette mise en question. Voyant cette espèce d'effet de retournement, d'enlisement du procès dans ce qu'il prétendait juger, ça m'a mise dans une telle rage que je me suis lancée dans une autre forme, simplement parce que sinon il n'y avait pas de moyen d'en sortir. Donc pour répondre, il y a une rupture de technique entre mes deux premiers livres et ces deux-là. Mais cette rupture, elle me semble vraiment due au fait que les questions macroéconomiques en littérature, c'est très compliqué à travailler. Et de fait, moi, je les attrape par la langue, hein, mais simplement, j'essaie de remonter à chaque fois à la question des structures. Et pour te répondre, je pars toujours de ce que je vis, moi, à ma place dans l'ordre social, etc., et je constate un peu autour de moi aussi, bien sûr. Et pour la question qui a l'air un peu technique comme ça, on ne comprend pas très bien pourquoi je me suis lancée là-dedans, etc. En fait, moi, j'étais salariée dans l'éducation nationale, à l'hôpital public, et j'ai donc vu de l'intérieur, ou plus exactement subi de l'intérieur, une espèce de détérioration de tout, de nos corps, de nos conditions de travail, de la possibilité même de faire quelque chose, etc., qui était une corrosion. Moi, je l'ai vécu pendant 15 ans, donc j'ai vu la chose se produire sans qu'on puisse rien y faire, avec des effets d'aggravation systématique, et je me sentais, donc je luttais misérablement à des niveaux locaux sans arriver à faire quoi que ce soit, sans comprendre la machine générale, et j'ai voulu me tirer de ma propre impuissance au départ. Vraiment, c'était une sorte de réflexe de survie comme ça. Et quand j'ai compris comment les structures du capitalisme financiarisé, dans leurs deux branches, la branche actionnariale et la branche des marchés de dette, produisaient les deux situations de déréliction salariale d'un côté, des services publics de l'autre, ça a produit pour moi une sorte d'effet de remise en sens qui... moi, j'emploie toujours les termes de Fanon dans Les Damnés de la Terre pour en parler, parce que c'est exactement ce qu'il raconte avec les colonisés qui sortent du langage des colonisateurs et qui enfin récupèrent une capacité musculaire de réaction. Et là, moi, c'était la même chose. Vraiment un truc de libération, de distinguer l'ennemi, donc un ennemi structurel, mais évidemment, après, on distingue aussi ceux qui ont construit la structure, ceux qui la font fonctionner. Et il m'a semblé que moi, ça produisait pour moi un effet libérateur. Donc, j'ai essayé de reproduire cette remise en sens. Dans l'espoir d'amorcer comme ça des espèces de dispositions belliqueuses qui me semblaient paralysées dans les espaces où j'étais moi-même, quoi, dans le salariat, dans les services publics, etc. À partir de là, j'ai cherché en littérature comment je pouvais parvenir à rétablir la figurabilité de tout ce qu'on ne comprend, de tout ce qu'on ne saisit pas, c'est-à-dire des effets structurels, la violence des effets structurels et comment ils fonctionnent. Et comment faire ça? Moi, je me suis dit qu'en réalité, il y avait plusieurs angles en littérature qui me permettaient d'attaquer la chose, en sachant que l'objet qui m'intéresse, du coup, il gigogne. Il a trois dimensions. Il y a une dimension pulsionnelle, qui est la pulsion d'extraction illimitée et forcenée du profit. Cette pulsion s'est donnée des structures pour se réaliser. Donc, ce sont celles du capitalisme qui est devenu notre ordre social, dans sa forme très féroce qui est celle du capitalisme financiarisé. Et après, il y a tout un processus de défiguration langagière et normatif, qui est l'hégémonie dont tu parlais, puisque je réutilise les concepts de Gramsci pour en parler. Et à chaque fois, mon travail, c'est d'essayer d'attraper les trois aspects de l'objet pour faire surgir les contours de l'ennemi et donc permettre de percevoir les causes de la déréliction qu'on ressent. Donc, pour utiliser une image que j'emploie dans Personne ne sort les fusils, c'est pour ça que j'utilise la colonie pénitentiaire de Kafka, parce qu'elle me semble avoir un pouvoir métaphorique très fort, parce que dans la colonie pénitentiaire, la colonie a une organisation très cohérente qui a été décidée par l'ancien commandant, mais plus personne ne sait à quoi ça correspond, et en revanche, un certain nombre de contrevenants se font punir sur une herse, se font lacérer, on leur lacère dans le corps le commandement auquel qu'ils ont enfreint, mais jamais ils ne savent quel est ce commandement. C'est typiquement une situation kafkaïenne, mais elle est vraiment passionnante, je trouve, parce que c'est ça que j'ai vu dans les services publics, c'est ça que j'ai vu dans le salariat, et ça continue d'être ça, je l'ai vu au procès France Télécom, en grandeur nature, alors qu'on était censé attaquer l'ennemi, personne n'arrivait à le faire en fait. La lacération continuait au nom d'ordre qui n'était pas lisible pour personne. Et donc, j'ai repéré, moi, quatre manières de faire dans les deux livres. Là, je finis par voir comment je fonctionne, mais c'est a posteriori, hein, sur le coup, je ne pouvais pas le dire. D'abord, il y a cette obsession de faire surgir les structures, et c'est très difficile en littérature. Ça, c'est une des difficultés majeures, parce qu'il faut les styliser. Évidemment, je ne vais pas me mettre à faire de la macroéconomie super précise. D'abord, ça ne passe pas la barrière de l'esprit, et puis en littérature, c'est insupportable. Donc, j'ai choisi de styliser deux aspects en particulier, celui du coup de force inaugural, le moment où on bascule dans le capitalisme financiarisé au milieu des années 80. Je l'ai stylisé de deux manières différentes dans chacun des deux livres. Et puis après, les logiques de fonctionnement par lesquelles s'opère le lent travail d'ajustement aux désirs actionnariaux, donc dans le premier cas, et aux désirs des détenteurs de titres de la dette dans le deuxième cas. Donc essayer de faire surgir ça, mais pour une raison simple qui est de rétablir l'historicité du capitalisme dans la tête des gens. Parce que moi, une des choses qui me frappait, c'était à quel point tout le monde avait l'impression, donc ça marchait à fond le truc de l'hégémonie et sa naturalisation, que ça avait toujours existé, que de toute façon c'était comme ça que ça se passait et qu'on pourrait jamais en sortir. Donc juste rétablir inconsciemment ce circuit qui a une historicité. Donc du coup, ça m'amène à un deuxième aspect contre lequel moi j'en avais parlé à lundi soir quand vous m'aviez invité, parce que c'était le plus dur pour moi, et je continue de penser que c'est essentiel, c'est de lutter contre cette figure typique du néolibéralisme qui est la technicisation, qui consiste à dissoudre la politique dans la technique, et du coup, comment dire, à retirer à la connaissance et à la délibération des populations tous les considérants qui décident de leur situation réelle. Et donc ça, c'est un truc que j'ai essayé de contrecarrer en permanence, en rétablissant les opérations réelles qui se cachent derrière des formules dont plus personne ne sait ce qu'elles veulent dire. Enfin, d'ailleurs, personne n'a jamais su, sans doute, parmi les gens qui les subissent. Mais donc, du coup, moi, ça m'a demandé un travail énorme, mais essayer d'arriver à rétablir une visibilité, parce que du coup, au lieu de l'effet sédatif des formules hégémoniques, ça produit un, enfin, je pense, un espèce d'effet réactionnel de « ils sont en train de nous faire ça ». Enfin, en tout cas, c'est ce que j'essaye de faire. Puis après, il y a deux aspects qui tiennent cette fois-ci moins aux structures qu'aux opérateurs de la structure, les ingénieurs et les commandants, si on peut reprendre l'analogie de Kafka. Et là, du coup, l'idée, c'est plutôt de faire apparaître, parce que ce qu'efface l'hégémonie, ce qu'elle défigure et que j'essaye de refigurer, c'est l'ordre de domination dans sa violence, c'est-à-dire la violence de l'exploitation, les différences de conditions. Et donc, ça aussi, j'ai essayé de le rétablir dans le texte, c'est-à-dire faire apparaître la gamme de félicité tendanciellement toujours accrue, que les structures produisent nécessairement pour les dominants, et auxquels du coup ils n'auront jamais l'intention de renoncer. Je sais que c'est évident, mais en fait, je l'ai vu au procès France Télécom, hein, ça continue de fonctionner, cette espèce d'histoire à dormir debout, c'est le cas de le dire, que la raison, la vertu, la morale pourraient modifier le capitalisme dans le bon sens sans qu'on touche les structures. Et donc moi, ce que j'essaye de faire apercevoir, c'est à quel point, puisqu'il est dans l'ordre des choses que ces gens prennent tout et nous massacrent sans aucun problème, jamais ils n'arrêteront. Donc c'est aussi un des trucs que je voulais créer en court-circuit dans la tête pour qu'on arrête d'attendre des choses qui ne se produiront pas. Et le dernier aspect, c'est, ça va un peu avec, c'est je me suis rendu compte que je faisais ça assez longtemps après, là, en parlant du livre la semaine dernière, c'est une sorte de malaxage imaginaire, à la fois des énoncés, les faire changer d'état, les énoncés automatiques, dont je parle dans les deux bouquins, donc pour qu'on distingue ce qu'ils veulent dire, enfin, ça a l'air absurde, mais voilà. Et deuxième chose, le malaxage imaginaire des figures aussi, de ce que Pascal appelle les grandeurs d'établissement, Blaise Pascal. Parce que donc ces gens sont lestés par un ordre symbolique et social, et moi ce qui m'intéresse c'est de les faire passer sous les rapports du texte pour les destituer symboliquement. Mais vraiment c'est l'opération, et donc là j'utilise tous les outils que la satire met à ma disposition pour les ramener aux grimaces de l'intérêt, aux boursouflures de l'amour propre, à l'espèce de vie de pantin qu'ils ont, parce qu'ils sont complètement gouvernés par l'hégémonie eux aussi, eux elles leur profitent, c'est la différence. Mais moi, j'essaye de les faire apercevoir comme ces individus indigents, en vérité, mais incroyablement nocifs. Mais ça, je pense que c'est utile. Je pensais l'autre jour à un truc que dit Baudelaire sur le rire, où il dit « à chaque période révolutionnaire, il y a des fièvres caricaturistes ». Et je pense que c'est pas pour rien. C'est parce que lorsque on engage des mouvements de combat contre les dominants, les mettre à bas imaginairement, je pense que ça fait partie du processus. Donc en gros, après si vous voulez, je peux donner des exemples plus concrets de comment j'essaye de faire dans le livre, mais en gros l'idée c'est ça, c'est parvenir à réouvrir des marges de manœuvre là où on est complètement paralysé par l'incapacité à se représenter, parce que l'hégémonie a fini par faire un « c'est comme ça » vraiment très efficace, ce qui est en train de nous abattre, quoi, enfin...
Et justement, et c'est ça qui nous a beaucoup surpris, parce que faire un livre en littérature sur la dette publique,
ouais,
c'est un peu curieux, ça nous a surpris. Dans la hiérarchie de tous les problèmes qu'il y a à traiter aujourd'hui, enfin, auxquels on doit faire face en ce moment, ouais, qu'est-ce qui t'a amené à dire « je vais attaquer la question de la dette publique » ?
Moi, en fait, je suis partie des choses transversales qui ont l'air d'écraser la majeure partie de la population et que j'ai moi-même expérimenté. Et donc, je le disais tout à l'heure, il y a la question du salariat, la manière dont c'est maintenant tenu de main de fer par les marchés actionnariaux. Et puis, il y a la question des services publics. Et en gros, moi, ce qui m'intéressait, c'est qu'il me semble que par la littérature, on peut dégager le tableau cohérent de toute la destruction des services publics, tu vois, donc la SNCF, la Poste, EDF, l'Office national des forêts, la recherche, l'audiovisuel public, enfin, ça s'arrête jamais, l'hôpital public, etc. Tout ça, c'est un même mécanisme, dans tous ces lieux, c'est un même mécanisme qui est à l'œuvre. Et très peu de gens le savent en vérité, ou en tout cas, enfin moi j'en ai rencontré très peu, à part les économistes bien sûr. Et donc du coup, moi je, dans Personne ne sort les fusils, je me suis attaquée à la première branche, parce qu'en réalité le capitalisme financiarisé a deux branches qui lui permettent d'intervenir sur l'ordre politique et de le gouverner en réalité. La première branche, c'est celle qui s'abat sur les salariés et qui passe par les marchés d'actions. C'est celle que j'ai appelée dans le livre précédent, Personne ne sort les fusils, il faut libérer du cash flow. C'est ce discours automatique-là. Mmh. Et la, donc parce que c'est l'exigence de la rentabilité, etc. Et la deuxième branche, c'est la branche des marchés de dette. Et celle-ci, elle permet aux investisseurs d'exiger un certain comportement des États en, au nom de la soutenabilité de la dette. Et celle-ci, elle s'abat sur les services publics, donc à la fois les salariés et les usagers. Et donc, moi, je voulais parvenir à faire apercevoir cette logique-là. Et dans mon esprit, tu vois, c'est aussi important de saisir comment le capitalisme nous écrase que de saisir comment le patriarcat ou je ne sais quoi, les logiques du capitalisme détruisent l'environnement. Ce que peu de gens, d'ailleurs, finalement, dégagent également. Moi, je trouve que finalement, ça me frappe beaucoup. Les logiques du capitalisme s'en sortent toujours très bien. On n'arrive jamais à les montrer nettement. Et finalement, même dans l'art du monde vivant, etc., c'est pas une chose qu'on aperçoit. On nous parle des invisibles, on nous les fait surgir, mais on nous montre pas les invisibles structurels qui les détruisent. Et moi, ça, c'est une préoccupation que j'ai. Et il me semble que là, les personnes sont détruites par ça, au même titre, tu vois, dans le salariat et dans les services publics. Donc moi, ce que j'ai essayé de faire, c'est ça. C'est de, par exemple, tu vois, les gilets jaunes, moi c'était un truc qui me frappait beaucoup, les gilets jaunes, ils se prenaient les deux branches dans la tête. La branche salariale quand ils étaient dans le privé, la branche des marchés de dette quand ils étaient dans le public, et comme usagers, de toute façon, la branche du public. Et il y avait une chose qui était frappante, c'est que, par exemple, leur revendication contre l'ISF, au fur et à mesure, à force de se recevoir la canonnade hégémonique qui leur disait « on va perdre notre attractivité, les cerveaux vont quitter la France, etc. », ils ont fini par douter de la légitimité de leur réclamation. Mmh. Et tu vois, ça c'est typiquement, c'est ça que j'essaye de contrecarrer là où je peux, avec l'impact que je peux avoir, mais c'est vraiment l'idée de mettre à disposition très concentrée, très stylisée toutes les logiques, comment elles fonctionnent pour qu'on puisse tout de suite réagir quand on te sort la rengaine et qu'elle t'arrive de toute la stéréophonie comme ça et que tu sais plus si t'as raison ou si t'as tort. Voilà. C'est la raison de la dette publique.
Ok, mais parce que en fait, en gros, tu considères que la dette publique est une manière de visibiliser ces fameuses structures qui existent et qui...
Bah parce qu'il me semble que la destruction des services publics, pour le coup, c'est un effet de corrosion que subit toute la société française, tu vois, qui plonge notamment les trucs de redistribution, la protection sociale, la continuation du salaire, ça prive les gens. L'hôpital, enfin, je veux dire, là, pendant le confinement, moi, j'ai commencé, en fait, ce livre, avant, j'ai fait un podcast sur le même sujet, et j'ai commencé pendant le confinement, le premier, parce que l'hôpital submergé, jamais parmi les causes, n'était évoqué simplement ce que le capitalisme néolibéral en a fait, tu vois, tout simplement, parce que c'est pas l'hôpital public qui fonctionne mal, c'est ce qu'on en a fait avec la managérialisation. Donc, tu vois, c'est pareil. Et pourquoi ? Parce qu'on l'ajuste aux exigences des actionnaires. Enfin, pas des actionnaires, en l'occurrence, des investisseurs. Mais tu vois, c'est ça que je voulais faire apparaître. C'est qu'on arrête de parler d'autre chose que de ce qui est en train de produire la destruction véritablement, quoi. Voilà.
Oui, en fait, l'objet du livre n'est pas tant la dette en tant que quantité d'argent emprunté à quelqu'un que la construction langagière qui fait de la dette un objet politique indépassable. Et pour ça, tu as suivi du coup plusieurs émissions. Et donc, ce qu'on se posait un petit peu comme question, c'était de savoir quelles émissions tu avais choisies. Et tu utilises beaucoup d'exemples de grands d'administrateurs, d'anciens ministres. Comment est-ce que tu avais opéré ces choix comme corpus de base pour déterminer un petit peu les mots que tu allais décortiquer?
Alors, en fait, j'ai adopté la même méthode que dans Personne ne sort les fusils, parce que j'avais vérifié qu'elle était efficace, c'est-à-dire trouver un objet concentrat, où tout est replié. Et donc, au procès France Télécom, bon, de fait, tout était replié de toutes les logiques de privatisation. J'avais pas besoin d'aller chercher très loin. Et là, j'ai cherché dans les médias, puisque les médias sont le lieu de la stéréophonie, de la dette publique, c'est mal, comme je l'appelle, qui est l'équivalent fonctionnel de « il faut libérer du cash flow » dans l'autre branche. J'ai essayé, dans les médias, de trouver un objet où soit replié toute la logique que j'évoquais à l'instant, de pression des investisseurs pour que les politiques publiques détruisent l'État social. Donc pas l'État policier, hein, celui-là il va très bien, mais l'État social pour que les investisseurs continuent d'investir sur les titres de dette français. Et du coup, j'ai trouvé assez facilement, en fait, hein, sur France 5, une émission, en fait, il n'y en a pas plusieurs, il n'y en a qu'une, qui est une espèce de miracle hégémonique, hein, parce que donc, c'est un spécial C'est dans l'air. Rien que C'est dans l'air, le titre de l'émission dit « Je suis une émission hégémonique ». Donc cette émission s'appelle en plus, en particulier ici, c'est une émission spéciale qui dure une heure et demie et qui s'appelle « Dans le piège de la dette ». Autrement dit, dès le titre, on sait que la dette publique c'est mal et qu'on va nous expliquer pendant une heure et demie pourquoi. Et ça, tu vois, c'est, moi c'est ça aussi qui m'intéressait, c'est typiquement ce que le néolibéralisme a fait au journalisme, il l'a transformé en décryptage. Et décryptage, c'est le mot pour le journalisme imprégné de néolibéralisme qui prend les populations pour des débiles et qui produit une pédagogie qui consiste à expliquer pourquoi c'est ainsi. Donc c'est génial, enfin, sous couvert de faire une enquête. Donc moi, du coup, cet objet était formidable parce que dedans, il y avait tout. Il y avait tous les porteurs du discours de la dette, qu'on retrouve tout le temps, et il y avait toutes les figures de style de la dette. Donc les porteurs du discours, moi je les ai divisés en quatre groupes, mais ils reviennent tout le temps, on les retrouve systématiquement après. Donc les gouvernants, en effet essentiellement des ministres des finances, de l'économie, du budget, les gouvernants. Ensuite, je peux peut-être dire qui il y a là dans l'émission, il y a Gérald Darmanin, Édouard Balladur, j'ai pas gardé tout le monde parce qu'il fallait styliser, toujours pareil. En fait j'en ai gardé deux de droite, deux de gauche, entre guillemets, donc Balladur, Darmanin d'un côté et Michel Sapin et Jean-Marc Ayrault de l'autre. Ensuite, il y a le groupe des sages, donc les sages c'est vraiment un élément très important de cet édifice de croyance, parce que les sages, ce sont ceux qui appartiennent à des institutions réputées indépendantes. Le réputé a toute son importance, donc en l'occurrence ici c'est la Banque Centrale Européenne et la Cour des Comptes, et donc les deux personnages qui apparaissent dans le reportage, c'est Didier Migaud, qui était l'ancien président de la Cour des Comptes, et l'ancien président français de la Banque Centrale Européenne, Jean-Claude Trichet. Et puis ensuite, il y a les fameux experts de plateau. Quand on regarde un peu des émissions, on les connaît mieux que soi-même. Hein, on les voit tout le temps. Donc c'est Nicolas Bouzou et Philippe Dessertine. Et puis après, il y a la décrypteuse, puisque là, il n'y a qu'une... C'est la seule femme de toute cette histoire, mais elle vaut son pesant d'or. Donc Caroline Roux, qui, elle, est une espèce de quintessence de ce que je viens d'expliquer et qui va passer l'émission à valider tout ce qu'elle prétend questionner. Voilà, donc moi j'ai essayé d'attraper la chose comme ça, et pareil, bon, je ne sais pas si je le dis maintenant, mais voilà, il y a six figures de style qui reviennent absolument partout, et là, elles étaient toutes rassemblées, et c'était une des choses que j'espérais faire, j'avais fait la même chose dans Personne ne sort les fusils, c'est en fait faire apercevoir matériellement comment ça marche, ce corpus langagier, qui défigure les opérations de la finance, et qui, pour nous, les transforme en histoire morale, mobilisant des affects de peur ou alors des affects héroïques comme dans Il faut libérer du cash flow, et c'est ça que j'essaye de démonter. Voilà,
peut-être qu'on peut s'arrêter un petit peu sur les caractéristiques de ce langage, en fait. Oui. que tu analyses, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus?
Oui, bien sûr. En fait, alors en réalité, les deux défigurations des deux branches, les défigurations langagières, elles ont des caractéristiques très différentes. C'est normal parce que c'est pas la même chose qu'il faut transformer. Du côté de la branche actionnariale, donc celle qui s'abat sur le salariat, en gros, il s'agit de transfigurer la surexploitation des salariés. Donc là, ils ont bâti une espèce de geste héroïque en toc, hein, qui repose sur ce que j'appelle dans Personne ne sort les fusils la concunovation. C'est un néologisme qui parle de l'innovation concurrentielle, qu'ils ont transformé donc en registre épique absurde. Pour tout ça, pourquoi? Pour surmobiliser les salariés pour leur surexploitation. Donc à chaque fois, il s'agit de retourner complètement ce qu'il faut faire. Et là, dans le cas de la dette publique, le registre est totalement différent. Parce qu'on ne peut pas vraiment héroïser cette histoire de réduction des services publics. À un moment donné, il faut juste faire accepter aux gens qu'ils perdent tout. C'est tout. Il n'y a rien d'autre à mobiliser. Donc du coup, le registre de la dette publique, il est beaucoup plus du côté, c'est ce que j'ai utilisé comme image dans le texte, du conte pour enfants, parce qu'on mobilise des affects de peur et une résolution morale. En gros, l'histoire, c'est toujours la même, c'est il va se passer quelque chose de terrible si on ne réduit pas les dépenses publiques, la dette sera hors de contrôle, vous allez voir, ce sera horrible, donc il faut que vous acceptiez qu'on supprime tous les services publics les uns après les autres. Et autour de ça, il y a six figures de style qui construisent ce discours. Il y en a une que j'appelle la cuculisation, en reprenant un concept de Gombrowicz. Bon, en gros, c'est un synonyme d'infantilisation dans le texte. La deuxième, c'est la, La technicisation que j'ai évoquée tout à l'heure, la troisième, la moralisation, qui a vraiment une place considérable, et ensuite l'inversion et l'escamotage. J'ai dit qu'il y en avait six, mais j'en manque une, là, je sais plus laquelle c'est. La terrorisation, l'inversion et l'escamotage, qui sont en fait toutes les figures qui repassent en permanence dans le discours et qui finissent par nous ligoter vraiment intégralement. Enfin, on est basculé d'un truc à l'autre, mais il n'est jamais question des choses dont il s'agit réellement. Voilà.
Et d'ailleurs, en fait, tu dis une thèse qui est quand même très forte, c'est que tu proposes en fait une lecture de notre impuissance collective, quoi. Et t'en viens à dire que ces énoncés politiques, qui rendent évident absolument toute chose, etc., qui naturalisent toute chose, c'est ce qui produit notre. Enfin, c'est ce qui défait nos capacités politiques. C'est-à-dire qu'en fait, tu donnes au langage-là un pouvoir extrêmement fort, à ce langage-là, en tout cas, un pouvoir extrêmement fort, au point que, en fait, c'est nos capacités politiques qui seraient défaites. Alors, d'une certaine manière, j'aimerais bien que tu nous redises, en fait, comment tu interprètes cette impuissance-là, qui me semble-t-il, fait rupture avec pas mal de lectures, en fait, qu'on pourrait avoir du monde avec Marx, etc. Ouais. Et en même temps, y a un effet un peu écrasant, quand même. C'est-à-dire qu'on a un peu l'impression d'être complètement écrasé par ce langage, comme si, finalement, au fond, il n'y avait pas de... Il n'y avait pas de possibilité de résistance, ou en tout cas, il n'y avait pas réellement en fait, des formes de résistance qui émergeaient ici ou là, quoi. Est-ce que tu peux nous redire cette vision que tu as de l'impuissance, quoi ?
Bon, d'abord, c'est pas du tout dans mon esprit, c'est l'inverse de la résignation de ouais. faire ce constat. Hein. Okay. En plus, je pense, encore une fois, moi je parle depuis l'endroit où j'étais, où tout le monde, où il n'y a plus du tout de culture politique. Plus du tout. Donc du coup, évidemment, ces énoncés entrent comme dans du beurre. Hein. Et moi, je m'en souviens bien, quand tu vois les histoires de salariés, quand tu rentres épuisé, etc., tu rentres, t'entends à nouveau le même machin. En fait, non, tu produis pas une déconstruction automatique de ça, parce que t'as plus du tout d'armes intérieures pour construire le démontage. Alors évidemment, il y a des sursauts, etc., et au moment où il y avait le truc des gilets jaunes, c'était formidable, parce que toutes ces questions-là étaient soudainement dépliées. Mais c'était un effort énorme, et le maintenir sur des mois, avec tout ce que ça coûtait matériellement, etc., c'est là que tu te dis, bon, ça peut servir à quelque chose, non pas pour se résigner, mais moi, c'est pour ça que j'ai fait ça, d'aller un peu plus dans le sens de produire des démontages très rapides, tu vois, pour provoquer, je sais pas, c'est une sorte de truc, ça me fait penser à de l'autodéfense, en fait. C'est un... Je réponds après précisément sur ce que tu m'as demandé, mais tu vois, par exemple, moi, il y a plein de gens, ça me fait extrêmement plaisir, qui me disent, soit sur les fusils, soit sur celui-là, là, enfin, sur le podcast, parce que celui-là, il est sorti la semaine dernière, donc, qui me disent, ah, c'est génial, parce que maintenant, quand mon référent de la médecine du travail me dit, vous êtes un poids pour la société, il est temps de vous responsabiliser, votre handicap nous coûte cher, etc., je lui dis, non, c'est pas ça, en fait, je vais vous expliquer ce qui se passe. Et quand les gens me disent qu'ils ont fait ça, moi, je me dis que ça sert à quelque chose, tu vois, parce qu'il faut fournir tout le démontage. Il faut qu'ils viennent, à chaque fois qu'ils te sortent leur truc, tac, il faut que ça ressorte. Et moi, il y en a plein de gens qui m'ont dit ça. Soit, là encore la semaine dernière, une jeune fille qui m'a dit « J'ai été prise en évaluation par trois managers, machin, qui ont commencé à me sortir tout leur truc, mais je connaissais tout le discours grâce au bouquin. » Bon, tu vois, c'est un truc de défense, vraiment. Moi, je pense souvent à des images d'arts martiaux où je me dis « Leur truc, c'est une clé. » Tu vois, ils nous attrapent le poignet, puis ils nous font tourner en rond, et nous, on n'arrive pas à se révolter.
Est-ce que tu penses qu'il y a encore des personnes qui croient véritablement à ce langage, en réalité ? Est-ce que vraiment, tu penses que...
Mais j'en suis absolument certaine. Ouais. Moi, quand je suis en Dordogne, là où j'habite le plus souvent, les gens avec qui je discute, etc., ils me disent vraiment... Par exemple, là, quand il y a eu tout l'argent pour pendant l'interruption du travail, pendant le premier confinement, j'ai des amis qui sont soit saisonniers, soit, je sais pas, esthéticiennes ou paysans, etc., et qui me disent... moi je suis hyper angoissée. Comment ils vont faire nos enfants là pour payer tout ce qu'on nous donne comme fric? Ça marche à 2000% en fait. Enfin, tu vois, toutes ces bêtises, comme tu les entends toute la journée, si tu produis pas l'analyse, c'est ça le problème. C'est il faut quand même avoir les mécanismes macroéconomiques. Sinon, tu peux pas finalement. C'est ça le problème. C'est ça le problème de la stéréophonie hégémonique. C'est que comme le discours est diffus, qu'il arrive d'un nombre énorme d'émetteurs qui sont apparemment distincts les uns des autres, qui n'ont visiblement pas les mêmes intérêts, c'est toute la réussite du truc, et que tous te disent la même chose et que t'as pas le premier moyen pour démonter, tu te dis ça doit être vrai. Tu vois, moi c'est ça qui me frappe.
Mais le problème, c'est qu'il y a, un langage à déconstruire, et c'est hyper important de le faire, effectivement. Ouais. Mais en fait, derrière ce langage, il y a surtout un mode d'abstraction à déconstruire,
oui.
Un mode de raisonnement. Quoi.
Oui, oui.
Et d'une certaine manière, en fait, quand on les entend parler, quelque chose de... il y a une cohérence, en fait. C'est pas,
ouais.
C'est pas juste... et c'est comme ça, c'est à la fin, finalement,
oui.
Au fond, c'est la seule possibilité. Mais... Et du coup, comment, en fait, on attaque ce mode d'abstraction, et comment aussi, en fait... Parce que d'ailleurs, il n'y a pas en ce moment, peut-être, historiquement, un basculement des modes d'abstraction en se disant, finalement, au fond, la façon dont eux y raisonnent, et donc à mettre la question, par exemple, de l'économie ou de la dette publique comme étant quelque chose de à la fois d'irréversible, en tout cas sur laquelle on ne peut pas
oui.
Bouger, est-ce qu'on n'est pas en train d'assister précisément à un basculement? Et est-ce que justement, en plus de la déconstruction du langage, c'est précisément leur mode d'abstraction qu'il faut attaquer, quoi?
Comment dire? Si, sans doute que tu as raison. En fait, je suis plus terre à terre, je pense. Que ce que tu me dis. C'est-à-dire, moi, ce que je vois, c'est qu'il y a des machines disciplinaires, là, en l'occurrence, la machine disciplinaire de la dette publique, et que cette machine disciplinaire, je prends l'image que j'utilise dans le livre, elle est défigurée par les discours, de telle manière à apparaître comme un intérêt général. Alors, qu'on trouve ça insupportable ou pas, la vérité, c'est que ça fonctionne, tu vois. Pour répondre sur ce que tu disais tout à l'heure sur la dédémocratisation que ça produit, moi, c'est là où j'utilise Protagoras dans le livre. C'est ce moment où Protagoras fait une relecture du mythe de Prométhée, et où en gros ce qu'il met en évidence, c'est que s'il y a des questions techniques qui concernent toute la cité, les techniciens peuvent s'en charger parce qu'ils ont la compétence pour, mais si des questions politiques concernent toute la cité doit s'en charger en entier. Et de fait, nous, ce qui se passe, c'est l'inverse. C'est-à-dire que toutes les questions sont remises aux techniciens. Mmh. Et c'est ça que je veux dire, t'as raison sur le mode d'abstraction, mais sauf que c'est de fait ce que les structures construisent. Moi, effectivement, en plus, en ce moment, il y a tous les questionnements sur la question de la dette publique, etc. Mais ce que je crois, c'est que de toute façon, une autre machine disciplinaire reprendrait le dessus, tu vois. Enfin, il y a un moment donné, ils ont toujours le même fonctionnement. Ils sanctuarisent à l'intérieur, par exemple, là, il y a eu un projet de loi encore la semaine dernière, où à chaque fois, ils veulent inscrire en amont même de toutes les décisions politiques l'impossibilité de dépasser tel seuil de déficit, de dépasser tel seuil de déficit. Et en fait, ça produit de fait une direction des politiques publiques. Tu vois, toujours la même en plus. Enfin, on la connaît. Donc c'est la destruction complète de l'État social. Et donc, moi, c'est ça qui m'intéresse. C'est que, tout simplement, ces trucs produisent une situation pourrie et on n'arrive pas à voir que cette situation est déjà pourrie en amont à cause des structures. Donc moi, c'est ça qui me... Tu vois. Et c'est pour ça que à la fois les structures de la déréglementation et l'Union européenne qui produit le renforcement systématique de tout ça, ça fait une camisole, mais on est enfermé là-dedans. Enfin, à un moment donné, c'est concret, tu vois. C'est pas juste de l'abstraction. Moi, c'est ça qui m'interpelle. Quand tu commences à les fréquenter, tu te rends bien compte que... Par exemple, tu vois, il y a un cas que je trouve... très exemplaire, c'est pas sur la dette là, c'est sur l'autre branche, c'est sur la branche actionnariale. Moi, j'ai écrit un texte sur lui aussi, c'est le cas de Emmanuel Faber, l'ancien PDG de Danone, qui est un peu l'étoile de la RSE, donc de la responsabilité sociale des entreprises, qui faisait semblant d'être en train de révolutionner le capitalisme de l'intérieur, d'en faire quelque chose de bon. Bon, évidemment, c'est pas vrai, hein, mais peu importe, il y croyait beaucoup, il s'identifiait au Christ, bon, et les médias se ruent sur ce genre d'aubaine, évidemment, parce que c'est formidable, on est en train de tout changer sans rien changer.
Oui.
Et simplement, Emmanuel Faber, quand Danone a perdu de la rentabilité à cause du Covid, il a été dégagé. Fini l'histoire, c'est fini. C'est ça, la réalité, tu vois. C'est pas de l'abstraction. C'est qu'à un moment, les... Enfin, tu vois ce que je veux dire?
Moi, je dis pas que c'est abstrait, hein. Je dis que c'est un mode d'abstraction au sens d'un mode de raisonnement, une façon, en fait, d'interpréter, en fait, ce qui est souhaitable pour notre société.
Ah oui.
C'est, évidemment, d'être dans un raisonnement purement économique, un raisonnement capitalistique, tout simplement, quoi. Et que, évidemment, que notre difficulté, c'est à produire un autre mode de raisonnement qui aurait un peu un quelconque avenir pour notre humanité. Quoi.
Ah oui, alors tout à fait. Bah, alors là, du coup, je vais te répondre en termes de répartition des tâches, parce que moi, je ne suis pas capable de produire un autre raisonnement. C'est à vous de le faire. Tu vois, là, je vous laisse. Moi, je peux faire un truc propédeutique. C'est ce que j'essaye de faire, c'est-à-dire desserrer le maillage, juste pour que puisse s'amorcer d'autres raisonnements. Mais ça, c'est exactement ce que dit Fanon dans Les Damnés de la Terre. Il dit la même chose. Hein, c'est-à-dire, tu ne peux pas considérer là, je reprends ces exemples à lui, que les colonisés vont pouvoir penser hors de la logique des colonisateurs tant que tu n'as pas desserré cette espèce d'étau signifiant, imaginaire et normatif dans lequel on est pris. Et moi, c'est ça que j'essaye de faire. Donc, tu vois, par exemple, ils ont même pas, comment te dire, leur raisonnement, enfin la défiguration, ce que j'appelle dans le, j'ai établi dans le livre Le ministère des comptes publics une analogie entre un mauvais rêve et ce que nous fait subir le discours automatique de la dette. Parce que moi, ce qui m'intéressait, c'est pour ça que j'ai mis au centre du livre des cliniques capitalistes, qui est un pastiche d'études psychanalytiques des rêves dans le néolibéralisme, parce que moi, ce qui m'intéressait, c'était de récupérer cette distinction de Freud entre le contenu latent et le contenu manifeste des rêves. Puisque la définition de Freud du rêve, c'est que on a... Dans le rêve se libèrent d'émotions pulsionnelles qui sont réprimées à l'état de veille par la censure. Cependant, elles doivent rester défigurées, sinon elles provoquent le réveil du dormeur. Et moi, ce qui m'intéressait, c'est que c'est exactement dans ça qu'on est. C'est-à-dire, le néolibéralisme, c'est un rêve de capitaliste, c'est l'état rêvé du capitalisme, puisque toutes les restrictions qui s'étaient installées après la Seconde Guerre mondiale à cause de la compromission du capital et de la crise de 1929 ont été peu à peu enfoncées, continuent de l'être. Donc, en gros, maintenant, comme je le dis à un moment dans le bouquin, justement dans le contenu latent, ils peuvent tout prendre. Il n'y a aucune limite. Donc, ils continuent, etc. Et ce qui m'intéresse, moi, c'est de voir comment, comme dans un rêve, pour ne pas nous réveiller, nous, ils produisent une défiguration. Mais cette défiguration, si tu veux, elle arrive, moi je l'ai bien vu au procès France Télécom, elle arrive de moins en moins à masquer l'espèce de jubilation, de jouissance dans laquelle ils sont. C'était vraiment insupportable au procès France Télécom. Ces gens sont déboutonnés, là. Il n'y a plus du tout de limite. Et donc là, la petite rengaine de la dette, moi c'est comme ça que je la prends, c'est-à-dire comme une... C'est pour ça que j'appelle ça des contes, C-O-N-T-E-S. C'est parce que c'est une histoire qui est fagotée pour nous faire continuer à accepter cette chose. Mais eux, pendant ce temps-là, l'étendue de leurs autorisations grandit sans cesse. C'est ça, moi, qui me semble insupportable. Et quand tu vois, par exemple, les luttes des secteurs publics, moi, je connais plein de gens dans l'hôpital public, dans l'éducation nationale, dans la recherche, jamais elles ne voient le schéma structurant qui les unit. Chacun lutte dans son service public. Tu vois, c'est le genre de truc. Et ça parcellise totalement la possibilité de réaction, quoi. Enfin, il me semble.
Oui, dans ton texte, tu vises, enfin, tu crées aussi un autre concept, le PFLB,
ouais.
Le pour faire le bourgeois,
ouais.
qui adresse une critique acerbe à la bourgeoisie, mais qui du coup décale un petit peu le texte, c'est-à-dire on parle plus du langage, mais d'un groupe social qui s'active à faire fonctionner les structures. Et donc ce pour faire le bourgeois, moi j'ai parfois eu du mal, mais je crois aussi un peu toi Romain, à saisir un petit peu exactement... De quoi il en revenait ? Est-ce que tu pourrais revenir un petit peu dessus ? Et quelle est la place qu'il occupe un peu dans ton ordre logique conceptuel avec le langage, quoi ?
Alors, en gros, moi, ce que j'ai essayé de faire dans l'ensemble du livre, c'est de faire apparaître, comment dire, à la fois l'inavouable pulsionnel qui est au principe de tout, c'est-à-dire le gavage financier, pour le dire clairement, et les opérations de défiguration qui sont produites. Donc c'est pour ça qu'au centre, il y a les cliniques capitalistes, où j'invente à la fois une sorte de faux discours, de faux contenu manifeste, que je combine avec plusieurs discours pour faire un discours idéal de la défiguration, et ensuite je déploie tout le contenu latent de destruction des services publics pour étendre la surface de profitabilité. Et ensuite... Je voulais m'intéresser, c'est là qu'arrive le PFLB, non plus simplement aux dominants, aux structures qu'ils fabriquent et qu'ils font fonctionner, mais aux mécaniques sociales qui donnent de la puissance à tout ce que tu me disais tout à l'heure, c'est-à-dire à ce discours aberrant, pourquoi ce truc est répété dans toute la classe bourgeoise, alors que sincèrement, qu'est-ce que les gens en savent de la mondialisation, la dette publique, ils n'en savent rien du tout, quoi. Ils ne comprennent pas les énoncés qu'ils répètent. Et donc moi, ça c'est un des trucs que je voulais essayer de comprendre, c'est qu'est-ce que c'est cette mécanique sociale ? Alors, je l'ai appelé le PFLB parce que, donc le PFLB c'est un acronyme pour dire « pour faire le bourgeois », parce qu'il me semble que c'est une mimésis, c'est un jeu social de mimésis, typique de la bourgeoisie, qui consiste à vouloir être gouvernant dans sa tête, participer imaginairement de la sphère du pouvoir, en répétant les énoncés que les gouvernants utilisent. Et donc, c'est une manière pour la bourgeoisie de se distinguer du petit peuple, qui, lui, ne peut pas accéder à ces hautes sphères. Cependant, donc, ce qui se passe en réalité dans le PFLB, dans le pour faire le bourgeois, c'est que des individus annonnent toute la journée des trucs qu'ils ne comprennent pas, en récupèrent des gratifications symboliques très grandes dans leur petit jeu de bourgeois, mais tout ça pour nous, pour le reste de la société, a des conséquences dramatiques. Puisque, en fait, c'est eux qui donnent la puissance à l'hégémonie. Le truc qu'on disait tout à l'heure. Comment se fait-il que ces discours continuent à prendre ? Bah parce que au dîner, à la piscine, je sais pas moi, dans le bus, on entend des gens répéter ces choses. et qu'à la fin, c'est ça qui produit un effet de certitude.
Et d'ailleurs, tu dis que, excuse-moi, hein, tu dis que le bourgeois, c'est parfois c'est drôle d'ailleurs, le bourgeois ne pense pas, il ne doute pas, il est mu que par ses intérêts, il prétend grande chose par l'imagination, il est en quête d'intenses passions, de jouissances matérielles profuses, de gouvernement des corps collectifs. T'en fais une description, enfin, on a l'impression que...
Ça m'est très antipathique pour faire le bourgeois.
Et sur le coup, est-ce qu'il est aussi idiot que ça de ne pas comprendre en fait le... Enfin, est-ce que finalement tu le rends pas plus faible que ce qu'il n'est, quoi? C'est-à-dire, ouais. Est-ce
qu'il est... Alors je pense. Pardon.
Et en même temps, est-ce qu'il faut nécessairement être bourgeois pour faire le bourgeois?
Attends, je réfléchis à cette question difficile. Je pense que ce truc de répéter. Moi j'ai vu des gens pas bourgeois répéter les énoncés hégémoniques, mais ils ne les répètent pas du tout de la même manière. C'est pas exactement la même nuance. Ce truc où tu sens que tu es, toi, du côté des gouvernants, c'est quand même un truc qui est réservé à une certaine classe. C'est celle qui peut, qui n'est pas entièrement requise par la persévérance matérielle et qui peut s'occuper, tu vois, des grandes affaires du monde. Enfin, moi, ça, il me semble que ça, c'est... Alors, pour te répondre, Romain, la satire, sa règle du jeu, c'est qu'on tire le truc d'un côté, mais vraiment pour démolir. Donc, ça, c'est sûr. Donc, je ne peux pas, en plus, tu vois, commencer à faire des nuances sociologiques, etc. Je le fais pas. Et par ailleurs, je pense que c'est un peu vrai. Moi, j'y crois, si tu veux. C'est-à-dire, quand tu regardes je pense que c'est pas une histoire de bêtise. Je pense que c'est une histoire, encore une fois, de pulsionnalité. C'est des corps jouissants d'un jeu qui n'est jamais remis en question parce que les bourgeois entre eux continuent à y jouer. Et du coup, il me semble que c'est ça le plus dangereux. Moi, c'était déjà le sujet de mon bouquin sur Internet. Je pense que quand les corps sont saisis par la jouissance, mais laisse tomber, on peut plus rien arrêter. Et c'est pour ça que je voulais saisir cette chose. C'est parce que il y a une prétention de la bourgeoisie à s'intéresser aux choses importantes qui n'est jamais en fait accompagnée d'une compréhension de ce qu'elle répète, qui en fait après a des conséquences incroyablement dommageables. Donc je voulais les ramener à leur véritable statut, c'est-à-dire porteurs du discours hégémonique. Les gouvernants ne le comprennent sans doute pas davantage, hein, c'est pas la question, mais eux, ils en bénéficient même pas. Enfin, tu vois, je veux dire, à terme, les bourgeois, les petits bourgeois par exemple, ils vont perdre leur service public, ils vont se faire massacrer dans le salariat, comme tout le monde. Donc tu vois, il y a une espèce d'aveuglement sur la réalité de cette chose qui, moi, me rend folle de rage, quoi. Voilà, hein, c'est...
Il y a juste un point, peut-être ça fait un peu, désolé, un peu un son en arrière, mais sur la question de la psychanalyse, parce que tu utilises beaucoup de vocabulaire en psychanalyse. Moi, personnellement, je n'ai pas beaucoup de connaissances dans ce domaine-là. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment la psychanalyse te permet de penser des situations comme ça, ou comment... tu utilises beaucoup de vocabulaire qui relève de la psychanalyse, d'explications qui relèvent de la psychanalyse, et peut-être que tu peux...
Oui. Bon, alors d'abord, il faut que je dise un truc liminaire où la psychanalyse, dans ma tête, comment dire, c'est pas... j'utilise des outils psychanalytiques. Il y a certaines figures qui me sont très sympathiques, par exemple Tosquelles, etc. Mais la dérive institutionnelle atroce en quoi consiste la psychanalyse dans sa majeure partie, très majeure partie, c'est un truc qui m'est insupportable. Hein. Donc ça, d'abord, je tiens à le dire. En revanche, de même que je ne peux pas m'empêcher de penser en littérature, je ne peux pas m'empêcher de penser avec les outils psychanalytiques, et ils sont très utiles pour, je ne sais pas comment dire, mais s'emparer d'un certain nombre de situations. Par exemple, au procès France Télécom, c'est typiquement une méthode psychanalytique qui m'a permis d'attraper la situation. Alors, je peux repartir d'une phrase de Freud que j'aime beaucoup dans Introduction à la psychanalyse, qui est un ouvrage où il essaye d'être clair pour les gens qui comprennent pas la psychanalyse, et donc il fait des tableaux de névrosés. Quand il sait que son public va être un peu choqué, parce qu'en général, quand on n'est pas habitué à ce genre de lecture, on se dit, mais c'est quoi le problème des gens, quoi? Alors qu'en fait, c'est un truc que tout le monde vit, fait, etc. Mais quand tu concentres le portrait clinique, ça fait un effet très impressionnant. Et donc, la phrase de Freud, c'est, je me suis posé la question suivante, je cite, « Par quel motif et par quelle voie peut-on adopter une attitude aussi désavantageuse à l'égard de la vie ?» Ça, c'est une question que je trouve formidable. C'est vraiment une question géniale, je me la pose dans tous mes livres. Et nous, quand même, quand on nous regarde de l'extérieur, là où on est en train de se laisser écraser dans le salariat, massacrer dans les services publics, toutes ces choses, on peut se poser exactement cette question. Et au procès France Télécom, où des gens avaient courageusement, pendant 10 ans, monté un procès pour démolir ces ordures qui étaient sur le banc des accusés, etc., ils arrivent dans la salle et ils ont l'air encore d'attendre que ces gens, finalement, soient gentils avec eux. Donc la même question se pose. Et moi, j'ai utilisé une méthode qui est celle de la psychanalyse, mais sans du tout y réfléchir, hein, qui est, en psychanalyse, t'attrapes les chaînes signifiantes qui structurent les individus. C'est vraiment chaîne au double sens du terme, c'est-à-dire qu'est-ce qui tient les gens ? qui les tient, c'est-à-dire qui les fait tenir debout et qui en même temps les enferme, les emberlificote dans des trucs où c'est n'importe quoi, t'as 12 fois le même accident de voiture, tu sais pas pourquoi, ou je ne sais quoi, quoi. Et donc, la psychanalyse consiste à attraper les chaînes signifiantes, un peu ce que je fais en fait, les enchaînements automatiques, toujours la même chose, et en fait, en les distinguant, elle produit des réouvertures de possibles autres concaténations. Et là, d'autres réorganisations peuvent se faire. Et au procès France Télécom, moi, j'ai vu dans la salle des signifiants qui structuraient les débats, qui étaient les signifiants de la liquidité financière et qui faisaient que jamais ce procès ne pouvait avoir lieu. Enfin, tu vois, c'est un truc comme ça. Donc, j'ai pris les signifiants comme si j'étais en train de faire la psychanalyse de la situation collective. Et puis, j'ai remonté la chaîne des signifiants jusqu'à arriver au régime de relation d'objets. Là, c'est vrai que c'est encore un concept psychanalytique, parce que la liquidité financière, c'est un régime de pulsionnalité où tout est possible, et c'est un régime de relation d'objets où tu prends et tu jettes. C'est ça, la liquidité financière. Et donc, du coup, tout le comportement de ces gens devient parfaitement compréhensible. Je veux dire, c'est ça, le truc structurel dans lequel ils sont installés. Donc moi, c'est pour ça que ça m'intéresse, tu vois. C'est parce qu'il faut, je le disais tout à l'heure, l'objet, il est vraiment gigogne. Il faut tout le temps la pulsion, les structures et la défiguration langagière. Il faut jamais lâcher un des trois, parce que c'est toujours comme ça. Et puis l'autre truc où la psychanalyse m'a beaucoup aidé pour France Télécom, c'était l'analogie avec les nazis. Tout le monde faisait cette comparaison, mais de partout, quoi. L'accusation, la défense, tous les journaux de gauche, de droite, etc. Et en fait, personne ne savait exactement ce qui était comparé quand ils comparaient les procès des dirigeants nazis avec les procès des dirigeants de France Télécom. Et moi, je l'ai pris comme un symptôme. Tu vois, je me suis dit, c'est un truc chargé qui dit quelque chose, ça dit quoi? C'est un truc décalé, comme dans un symptôme. Et il me semble que le symptôme, c'était que, précisément, les moyens de qualification langagière de la violence systémique, on les a pas. Et donc, les gens sont portés à ce qui est analogiquement le plus proche, c'est-à-dire un truc hyper violent, qui est une machine de destruction délibérément créée, etc. Qu'est-ce qu'on a? Les nazis. Et on va chercher ça. Et tu vois, tout de suite, ça, je sais pas comment dire, tu sais, ça dégonfle ce faux problème qu'il y avait autour de cette comparaison, où on avait des débats à n'en plus finir sur « mais non, on peut pas comparer, mais si ». En fait, une fois que t'as compris ça, le truc est tout de suite compréhensible. Et c'est pour ça que moi aussi, je me suis dit « bon, bah alors il faut qu'on puisse qualifier les violences structurelles ». Puisque c'est ça le truc dont visiblement tout le monde souffre dans cette salle. Et dans celui-là, là, c'est un peu... c'est à la fois beaucoup plus potache la manière dont je l'utilise, la psychanalyse, parce que je disais qu'au centre, là, il y a cette fausse clinique capitaliste, et le truc amusant, c'est que tout le monde croit que c'est vrai. Les gens cherchent dans les catalogues du PUF le livre « Clinique du capitalisme » et me disent « je comprends pas pourquoi je le trouve pas », etc. Et en fait, c'est une plaisanterie, moi, que j'ai fabriquée, mais en vérité, je l'ai fait parce que j'avais pas d'autre moyen de figurabilité de la vérité pulsionnelle de la dette publique. C'est tout ce qui m'est venu comme idée, en fait. Ça me permettait à la fois de retourner, toujours pareil, hein, de les destituer en faisant les patients un peu cinglés qu'on est en train d'analyser, etc. Mais aussi parce que la méthode dans l'interprétation des rêves de Freud, celle que je fais semblant d'utiliser, c'est vraiment une méthode qui consiste à prendre un discours totalement défiguré, et puis hop, il remet tout dans le sens de la pulsion, et puis à la fin, on a toute la logique pulsionnelle de l'individu. Donc moi, je me suis dit, tiens, je vais utiliser la même méthode, c'est d'une clarté parfaite, tu vois. Donc là, c'était plus dans cet ordre d'idées. Et puis dans les cliniques capitalistes, il y a aussi les rêves des dominés. Et là aussi, on m'a demandé si on m'avait raconté ça en tant que psychanalyste. Je suis pas psychanalyste, hein. Donc moi, je trouve ça très Moscovici. Ouais. Et là, mais ça, c'est un truc que j'ai vu au procès France Télécom, c'est que parce qu'à un moment, Maître Beaulieu, qui était une des plus violentes avocates des prévenus, 5 minutes avant la fin des débats, a jugé nécessaire de raconter le rêve d'une salariée qui n'était pas du tout dans le procès, dans l'ordonnance de renvoi et tout. Donc en plus, elle déballe au grand jour un truc qu'elle n'avait pas à déballer. Et le rêve de cette dame m'avait semblé, moi, être pareil un peu que la comparaison avec les nazis, un incroyable effort de l'inconscient pour se figurer les causes de ce qui la détruisait. Donc par exemple, elle se représentait toute une armée de managers qui les faisaient travailler pendant qu'ils buvaient du champagne, etc. Enfin, il y avait tout un effort figural. Et du coup, j'ai récupéré cette idée-là en me disant l'inconscient des dominants, il est activé à défigurer leur plaisir pour pouvoir les maintenir intacts. L'inconscient des dominés, il est activé à refigurer les causes structurelles de ce qui se passe pour pouvoir lutter contre. Donc tu vois, par rapport à ce que tu me disais tout à l'heure, où c'est écrasant, machin, moi, dans mon esprit, pas du tout. Hein. Dans mon esprit, Moi, je vois toutes les forces, je l'ai vu aussi au procès France Télécom, toutes les forces des inconscients qui sont poussées contre ce qui se passe. Mais leur truc, là, ça marche du feu de Dieu. Enfin, leur espèce de confiscation du pouvoir politique par la technique. C'est pour ça que je m'y suis attaquée. Moi, la macroéconomie, ça me plaît pas particulièrement. Hein. Tu vois, ça fait 5 ans que je fais que ça pour comprendre. Mais parce que je me suis dit, moi, j'ai compris comme ça. Donc je me suis dit, si moi j'ai compris un truc, ça peut servir, tu vois. Voilà. Enfin.
Me semble que le procès France Télécom, ça a été très décisif dans ta trajectoire de pensée, quoi. On a l'impression que c'est.
Ouais.
C'est vrai que là, on en parle beaucoup, en fait.
Ouais.
Et tu peux nous raconter peut-être un peu comment. Je sais pas comment. Pourquoi en fait c'est aussi présent et qu'est-ce qui t'a autant. En fait, tu le continues aujourd'hui, en fait. On est encore dans le prolongement de ce qui s'est passé.
Oui, c'est la suite pour moi. Hein. Ouais. Parce que j'ai pas supporté ce que j'ai vu. C'est vraiment le truc où dans cette salle, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, des gens qui avaient réussi à traîner en justice leurs bourreaux, pour le dire clairement, attendaient que ces bourreaux leur disent « mais en fait on vous aime bien, on est désolé ». Ouais. Ce qui n'a jamais eu lieu, bien sûr. Hein. Ouais. On a eu à la place Didier Lombard disant « ces suicides ont gâché la fête et des trucs aberrants comme ça qu'il a dit toutes les 3 secondes, mais qui correspondent à ce qu'il pense réellement ». Et donc moi, en voyant ça, tu vois, c'est par rapport à ce que tu me disais tout à l'heure, sur est-ce que les gens y croient, etc. Je pense que je peux plus supporter qu'on soit enfermé dans un monde de croyances où on se représente pas le régime d'évidence des dominants qui fait que eux, nous écraser et nous détruire, c'est dans le programme. Et tu vois, là, c'est la même chose avec la dette publique. Enfin, faut les voir dans ce reportage.
Mais là, ils étaient dans le cadre de la justice, quoi. Donc, d'une certaine manière, en fait, on
s'attend à ce qu'ils jouent un peu.
On peut comprendre, en fait, qu'on puisse attendre, pas seulement une repentance, mais attendre à rendre justice, quoi. C'est peut-être aussi pour ça que, précisément, il y avait ces attentes-là. Est-ce que dans le.
Ce que je veux dire, c'est que, tu vois, c'était pas très. Là où ils auraient pu être offensifs parce qu'ils avaient gagné, ils les avaient traînés en justice. Oui. Ils attendaient toujours la même chose, en fait. Ils attendaient qu'on leur dise « on n'a pas fait exprès ». Et c'est jamais venu, parce que, en fait, ces gens sont ravis. Moi, je discutais avec un polytechnicien il y a une semaine qui me disait « mais mes amis qui bossent à France Télécom, tout le monde me dit « mais Didier Lombard a fait tout ce qu'il fallait ». Qu'est-ce qu'ils ont comme problème, là, les salariés ? Enfin, tu vois, pour eux, tout ça, c'est une pitrerie. Mmh. Tu vois ? Et donc, moi, c'est ça que je veux raconter. C'est ce qu'ils ont dans la tête. Donc en gros, c'est aussi ce que je disais tout à l'heure, c'est que je veux montrer la grande fête dans laquelle ils sont installés, en fait. Parce que je pense que ça déclenche des velléités de résistance à tout le moins, quoi, tu vois. Voilà.
C'est joli, ça, montrer la grande fête dans laquelle ils...
Bah oui, je pense qu'ils s'amusent pas mal, hein. Ça c'est sûr.
Il y avait peut-être... Bon... C'est encore une fois peut-être un peu intermédiaire, mais sur Gramsci qui est très présent, sur l'hégémonie, etc. Et là aussi, ça a l'air d'être très très important dans ta pensée. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi, en fait, le concept d'hégémonie, tu es autant attaché là aujourd'hui, et où est-ce que jusqu'où tu vas avec ce concept-là ? Est-ce que c'est vraiment...
En fait, Gramsci... Bon, moi, France Télécom, je l'ai fait sans Gramsci, hein, le livre okay. « Personne ne sort les fusils ». Mais comment t'expliquer ? Moi, du coup, dans le champ culturel, je suis un peu isolée avec le type de problématique auquel je m'intéresse. Et donc, je fabrique sur mon réchaud des théories ad hoc pour ce que je suis en train de faire, etc., jusqu'au moment où je rencontre Gramsci. C'est ça qui s'est passé. Et simplement, lui, j'ai découvert tout près, tout en appareil théorique, qui disait des trucs que moi, j'essayais de faire. C'est aussi simple que ça. Donc, moi, j'ai pas tout lu du tout, je le connais pas extrêmement bien, il y a des trucs où je suis pas d'accord, mais sur les trucs relatifs à la culture, franchement, moi il m'a... Tu sais, c'est toujours pareil, quand tu découvres un truc où tout est bien pensé, le type, il a passé 10 ans en prison à le faire pour toi, c'est vraiment très bien, parce que, si tu veux, une des difficultés que je ne cessais de rencontrer, c'est que parmi les effets d'englument de la langue courante et des systèmes normatifs inquestionnés, il y a cette idée complètement débile inscrite dans la langue de la littérature engagée, soi-disant. Il n'y a pas de littérature pas engagée, c'est pas vrai. La littérature est toujours engagée soit pour l'hégémonie, soit contre, tu vois. À un moment donné, t'es soit en opposition, soit dans le sens de ce qui se produit politiquement. Mais on en parlait l'autre jour, c'est la même chose que les gens qui te disent, parlant de l'ordre en place, disent « il est dépolitisé ». Non, il n'est pas dépolitisé, c'est un ordre politique, il faut comprendre ce que c'est que cet ordre politique-là. Donc c'est pareil, c'est cette fantaisie du neutre. En littérature, elle nous place dans cette impasse ridicule. Je veux dire, il n'y a pas à se dire « il y aurait une littérature engagée », littérature pas engagée. Et tu vois, par exemple, moi, je me débattais avec ces catégories, et paf, arrive Gramsci. Et ben, c'est formidable, c'est fini. Tu vois, tu te poses plus des questions aussi débiles. Tu comprends qu'il y a un appareil de ratification et de banalisation dans les normes culturelles d'un ordre de domination qui le transforme en direction générale du corps social. Et c'est fini, tu vois. Il y a vraiment un soulagement à ce que ce soit aussi nettement pensé. Et alors, il y a plein d'autres trucs qui me sont très utiles, moi, pour arriver à continuer à faire ces choses-là, même si les effets de la littérature sont invisibles. Tu vois, par exemple, son truc de guerre de position, guerre de mouvement, c'est pareil. Moi, ça me porte dans mon effort de continuer à me taper des trucs de macroéconomie et d'essayer de les métaboliser en littérature, de savoir que tu participes de quelque chose avec tous les autres qui font quelque chose, et puis dans ton secteur, même si ça a l'air invisible, en réalité, lui, il parlait de guerre de position pour les Lumières par rapport à la Révolution bourgeoise de 89. Et moi, je trouve que c'est parfaitement vrai. Moi qui connais bien les textes des Lumières, c'est d'eux que je me sens le plus proche, tu vois, avec le XVIe siècle. Et c'est des moments où la littérature, nous, de l'extérieur, maintenant, on se dit, mais elle faisait des trucs incroyables. Mais en réalité, sûrement que c'était des choses infinitésimales qu'on mesurait pas du tout à l'époque, tu vois. Et donc, moi, je me dis, bon, bah, ça redonne un horizon d'efficace à la littérature dans la lutte politique, dont moi j'ai besoin, tu vois, simplement pour être un peu... puisque j'ai pas de camarades dans le monde culturel qui font ces choses-là, moi ça m'aide d'avoir cet horizon. Et il y a d'autres choses qui sont utiles, tu vois, par exemple, son concept d'hégémonie par rapport au concept d'idéologie de Marx, il y a un apport qui est considérable aussi pour moi, c'est que Marx, il considère que les idées se forment au voisinage des réalités matérielles. Et ce qu'ajoute Gramsci, c'est que ça se fabrique aussi dans les affections des objets culturels que tu rencontres. Et donc moi, ça, c'est hyper important pour moi. Tu vois, tout mon travail repose là-dessus, c'est-à-dire la conversation nationale, qui aujourd'hui est particulièrement omniprésente, hein, avec les chaînes en continu, les réseaux sociaux, etc. Ça nous affecte à un point qui peut contrecarrer les réalités matérielles de notre existence. C'est exactement sur ça que je travaille. Tu vois, par exemple, dans... lui, Gramsci, son truc, c'était la guerre de 14, pourquoi les prolétaires s'étaient entre-détruits dans l'intérêt des dominants. Mais là, nous, c'est les deux questions que je pose dans les deux livres, c'est celle-là. Et là, sur la dette publique, c'est ça. C'est ce que tu as dit tout à l'heure. Comment les gens peuvent continuer à croire à ce truc? Ils voient bien qu'on détruit leur hôpital, qu'on détruit leur machin, que c'est pas pour leur bien. On leur répète toute la journée que c'est pour leur bien. Et en fait, ils perdent tout. Bah, néanmoins, ça continue à fonctionner. Donc, tu vois, c'est très fort, quoi. Tu sais, il a eu un conflit avec le PC à l'époque, parce que dans leur petite revue qu'ils avaient fabriquée, là, qui a commencé en 1919, L'Ordine et Nouveau, c'était une revue de culture socialiste. Et donc, c'est eux qu'on fait de l'activisme pour faire les comités d'usine des deux années rouges, mais c'est aussi une revue où il y avait un très haut niveau d'exigence intellectuelle. Et le PC s'est attaqué à Gramsci en lui disant « ça va pas du tout, c'est pas fait pour les ouvriers, on va pas faire des articles de ce niveau-là, etc. » Il a jamais rien cédé. Parce que lui, et ça, moi, je suis totalement d'accord, il disait et défendait l'idée que ce qu'il appelle, lui, la culture humaniste, on ne va pas la laisser aux bourgeois. C'est hors de question. Donc, on la récupère et nous, on construit une manière de se la réapproprier. Et bon, moi, tu vois, tout ce que j'essaye de faire, ça va dans ce sens-là. Il est hors de question qu'on se dépouille, tu vois, parce qu'il faudrait, je ne sais quoi, simplifier. Mais pour qui? Pour quel spectateur imaginaire? Enfin, tu vois, moi, tout ça, ça m'est insupportable. Et donc, du coup, le Gramsci, il est super pour moi. Il y a tout un petit appareillage comme ça où je me suis dit, ah bon, bah, je ne suis pas toute seule, tu vois. Il y a Gramsci. Bon, c'est un peu...
toujours utile d'avoir Gramsci avec soi.
Il y a une chose intéressante, d'ailleurs, c'est vraiment dans la continuité, mais donc on voit bien le travail de déconstruction de ce langage, etc. Ouais. Et on voit aussi, alors c'est un peu en creux dans ton livre, mais c'est aussi la façon dont il traite les objections. C'est-à-dire la façon dont il traite nos capacités à objecter autre chose du monde qui sont en train de nous raconter. Quoi. Ouais. Et donc tu parles à un moment donné où je te cite, hein, les contradictions réelles ne sont pas envisagées comme des personnes, mais comme des désordres affectifs. Et deux passages qui sont à peu près semblables. Ouais. Tu peux nous en dire un peu plus sur la façon dont...
Oui, et ça, c'est au début, non? C'est dans la... Je raconte un petit peu pour... en fait, donc, dans l'émission qui me sert de point de départ, il y a plusieurs moments, donc il y a beaucoup d'entretiens avec des gouvernants, des sages et des experts. Et puis, il y a des moments où on part en France. On part en France, en province, voir des situations où les services publics s'effondrent et où on va nous expliquer qu'on ne peut pas faire autrement, etc. Mais donc, on voit, c'est le moment, la sueur et les larmes du reportage. Et donc, effectivement, tout dans le montage confirme cette vision que le néolibéralisme a des populations, c'est-à-dire des espèces de groupes tumultueux, d'enfants idiots, c'est vraiment comme ça qu'ils nous voient, hein. Plus je suis dans leur tête, plus je me rends compte que c'est comme ça qu'ils nous voient, et c'est pour ça qu'ils fabriquent des machines disciplinaires, c'est pour ça qu'ils ont installé les marchés financiers au centre de tout. Les marchés financiers sont là pour faire une camisole à la démocratie, parce que les gens sont tellement stupides, les gens vraiment, ils nous prennent pour des idiots absolus, qu'ils ne comprendront pas pourquoi il faut faire les choses comme le capitalisme entend les faire, c'est-à-dire dégager du profit. Donc évidemment, c'est leur profit personnel, mais ça, c'est pas une question pour eux, tu vois. Et donc du coup, en effet, leur vision des choses, c'est qu'on est pris par des passions erratiques, qu'on est vraiment absurdement bête, hein, et que du coup, c'est pour ça qu'ils ont développé cette pédagogie insupportable qu'on voit dans tous les trucs de décryptage. Réellement, quand tu les regardes parler là dans le truc, ça, c'est les trois figures combinées de la moralisation, de la cuculisation et de la technicisation et de la terrorisation. Enfin, c'est les quatre qui fonctionnent comme ça pour nous serrer comme des petits enfants. Comme des petits enfants un peu agités, là. Donc, ils vont nous calmer, ils vont nous faire bien peur, ils vont nous dire, allez, maintenant, tu t'assois, c'est fini, tu te calmes, t'arrêtes de pleurer, et on va attendre la suite. Mais ils nous parlent vraiment comme ça, c'est un truc incroyable. La scène du préfet dans le reportage, il parle aux gens en disant, vous savez bien que c'est pas possible. Enfin, on se croirait dans un truc à la garderie où papa explique aux enfants qu'ils savent bien, ils peuvent pas avoir un 4 heures à 9 heures du matin, quoi. Donc, en fait, c'est leur vision de la politique qui s'exprime là. Mais c'est un truc qui remonte aux années 60, c'est dans le bouquin de Chamaillou sur être ingouvernable. Enfin, c'est théorisé. Pour eux, c'est une évidence, quoi. Et en fait, je pense que pour le coup, les journalistes décrypteurs, ils ont été imprégnés par ça. Maintenant, ils pensent la même chose, mais ils ne le savent pas aussi clairement, quoi, pour le coup, à mon avis.
Et puis, dans ce livre, il y a aussi plusieurs moments où tu prends des grandes œuvres littéraires que tu analyses aussi sous ce prisme-là. Il y a notamment un passage sublime du livre qu'on a trouvé très intéressant sur Alice au Pays des Merveilles.
Oui.
Et tu en viens à conclure que finalement le lièvre et le chapelier ont des gens pour qui le thé n'a plus de secret, qui vivent à l'heure fixe des puissants et dont les discours ne font pas sens. On aura reconnu les experts de plateau. Est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus sur à la fois les choix dans la littérature? C'est-à-dire, comment est-ce que tu opères ces choix-là? Et sur cette analogie entre le lièvre et le chapelier et les experts de plateau.
Alors, bon, voilà, je repars de... Pour la manière dont j'utilise la littérature, bah, y a deux façons de l'utiliser. Soit je fais des références explicites comme ça, soit il y a des techniques qui me viennent. Mais du coup, il y a plein de références qui sont sous forme de techniques que j'utilise. Mais là, du coup, ils sont pas explicitement nommés. Soit j'y pense avant, pour réfléchir à la situation, c'est le cas de Lewis Carroll et c'est le cas de Flaubert. Soit j'y pense quand j'écris, et là ça vient plus sous forme de technique, logiquement, et là en l'occurrence, toute la partie des portraits de gouvernants, c'est les caractères de la bruyère qui est derrière. J'ai utilisé cette technique parce que, en gros, à chaque fois, ça me permet de saisir un angle analytique, parce que moi je pense que la littérature pense. Et ça m'exaspère profondément que la littérature soit aujourd'hui perçue comme un espèce de chose vague où aucune forme de pensée n'existe. Et au contraire, moi, ce qui m'apparaît, c'est qu'il y a plein de situations que je n'arrive à penser que parce que je passe par des dispositifs littéraires. Donc, en l'occurrence, là, je les emporte avec moi dans le bouquin et après, je les fais fonctionner. Là, c'est donc la forme des références qui me viennent à l'esprit avant et qu'après j'amène dans le bouquin. Pour Lewis Carroll, l'angle analytique que je voulais saisir avec lui, c'est comment, en fait, un phénomène de langage, comme la langue hégémonique, qui prend son autonomie au bout d'un moment. Donc, de fait, au bout d'un moment, plus personne ne sait ce qu'on est en train de raconter. C'est ce que tu disais tout à l'heure, je crois, sur ces gens qui répètent toutes ces choses. Ils savent même plus pourquoi ils le font. En revanche, ils sont dans un jeu social où le répéter a des effets, tu vois, de lest. Tu te poses dans ton monde, etc., en disant ça, donc tu le dis. Mais donc, ce qui est intéressant dans Lewis Carroll, Alice au Pays des Merveilles, c'est les deux volumes, hein, Alice et puis après... par-delà le miroir, au travers du miroir, ça raconte comment Alice arrive dans des jeux de langage et les jeux de langage l'agressent parce que donc les jeux de langage sont littéralisés dans les aventures d'Alice et ils l'agressent parce que eux ils n'ont qu'un système d'évidence, celui de leur jeu. Et Alice arrive, elle leur dit « Mais pourquoi ? Je suis pas d'accord. Alors qu'est-ce que ça veut dire votre truc là ? Pourquoi vous faites ça comme ça ?» Et donc tout le monde l'agresse, l'ensemble des protagonistes sont des petites créatures de langage fanatiques hystérique, qui s'énerve à longueur de temps, qui l'agresse, etc. C'est très particulier, l'ambiance de Alice au Pays des Merveilles. Et néanmoins, elle continue de mener sa petite enquête et elle refuse d'accepter les « se lava de soi » de la langue. Donc moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est que tout est littéralisé comme ça, et toutes ces petites créatures, là, surexcitées, moi, je les considère exactement comme ça, hein, les personnages de la dette publique, c'est mal, moi, ça me permettait de les figurer ainsi, dans leur surexcitation, mais tu les sors de leur... tu vois, c'est comme des poissons dans l'eau, mais tu les sors de l'eau, et ben ils gigotent sur le sable et ils crèvent, en fait. Hors de leur langage, il se passera rien, tu vois. Et donc, moi, c'était ça que je voulais attraper. Donc, effectivement, dans Alice au Pays des Merveilles, au début, pour tout avouer, l'idée m'est venue parce que je faisais l'épisode de podcast sur, sur les médias, sur la, donc l'ensemble du reportage, enfin de l'émission. Et c'est pile à ce moment-là que Gérald Darmanin a fait ce discours que je cite dans le texte où il explique aux Français que les Français ne vivent pas tous dans Alice au Pays des Merveilles, ce qui est un contresens faramineux, parce que ça se voit que ce type n'a aucune idée de ce qu'il y a dans ce livre, puisque c'est atroce, Alice au Pays des Merveilles, donc bon. Mais en tout cas, comme ça m'avait énervé, ça m'a enclenché sur ce truc, et je me suis rendu compte que ça me permettait de reprendre tout dans le, dans le sens du livre, pour montrer dans quoi Gérald Darmanin était lui-même pris à ce moment-là, quand il racontait cette chose. Et... du coup, je leur ai tous donné un personnage d'un des deux livres. Donc Darmanin, c'est Humpty Dumpty, qui est une espèce de personnage odieux du bouquin. Et effectivement, après, on arrive aux experts de plateau et à la décrypteuse, qui, elle, est carrément toutes les reines d'Alice. Mais donc, du coup, les experts de plateau, ce qui m'intéressait, c'est que ça, c'est un épisode qui est dans... je sais plus, je confonds les deux volumes maintenant. C'est un épisode où Alice arrive, rencontre le... Non, c'est dans le 1, c'est dans Alice au Pays des Merveilles, rencontre le chat du Cheshire et lui demande où va cette route, où va cette route. Le chat lui dit, aucun problème, tu peux aller partout, tout le monde est fou. Ce qui est une manière de dire, tout le monde est dans le même jeu de langage, de toute façon, ça fera pas sens, hein, tu peux y aller. Et donc, c'est pour ça que ça m'a fait penser aux experts de plateau, puisque donc Alice va dans un sens, et puis finalement, elle se retrouve à la table des Mad As, parce que donc l'expression anglaise qui est littéralisée là, c'est Mad As, je vais pas les retrouver, fou comme un lapin et fou comme un chapelier, donc mad as a hare et mad as a hatter. Et donc du coup, les deux expressions sont littéralisées, il y a un chapelier et il y a un lièvre qui sont insupportables, qui sont à un bout d'une table et qui doivent se déplacer le long de la table pour rester à l'heure du thé, parce qu'ils ont été punis par la reine de cœur, je rentre pas dans les détails. Mais ce qui est intéressant, c'est que moi, il me fournissait une image parfaite de comment t'es assigné au créneau horaire du capital quand t'es expert de plateau, parce que tu dois impérativement dire ce que le capital a besoin que tu dises, sinon t'es plus invité au siècle, sinon t'as plus ton petit rond de table à la table de machin truc, ta vie sociale est terminée. Et donc c'est ça qui m'intéressait, c'était de faire apercevoir, là aussi, comment ces... Alors eux, les experts de plateau, bon, je démonte un des commentaires absurdes que fait l'un des deux mecs, ils disent des choses qui n'ont littéralement ni queue ni tête, c'est complètement n'importe quoi, mais c'est pas la question. Eux, ils sont dans l'ajustement systématique aux exigences des maîtres. Enfin, c'est vraiment... À l'ancienne, on aurait dit c'est des laquais, quoi. Et donc là, du coup, moi, il s'agissait de le saisir par cet angle, parce que ça permet... Pareil, ça permet de les ramener à leur truc de petite créature saisie dans un jeu, voilà.
Et on voit bien la présentatrice de télé qui est... Quand justement, l'autre ouais. Met du temps, en fait, à
dire ce qu'elle veut entendre. Ouais, ouais. Ouais.
Et à la fin, c'est le grand soulagement, parce qu'enfin, il a lâché ce qu'il fallait dire, quoi.
Mais c'est ça, je trouve que vraiment, quand on regarde le reportage, l'émission, c'est très très drôle, hein, parce que Caroline Roux veut son bingo, elle veut le bingo de la dette, donc elle va à chaque intervenant, il faut qu'elle obtienne ce qu'elle veut, et elle s'énerve, hein, enfin, il y a vraiment un truc. Et donc, c'est vrai que les personnages de Carole sont parfaits pour ça, parce que la reine de cœur est insupportable, elle hurle sur tout le monde, coupez-leur la tête dès qu'un truc lui déplaît, et là, la scène avec Jean-Claude Trichet, c'est un moment incroyable, parce que donc, elle est vraiment très contente, elle sent qu'elle va avoir enfin son acmé où il va lui dire que la France est vulnérable et que la France est au bord de la faillite. Sauf qu'elle n'a pas tout compris du jeu. Un banquier central, même à la retraite, il ne dira jamais ça. S'il dit ça, les investisseurs vont arrêter d'investir sur les titres de la France. Donc du coup, il ne veut pas le dire. Et elle le pousse, mais c'est vraiment une scène incroyable où elle ne parvient pas à l'obtenir jusqu'au moment... Elle l'interrompt, elle lui dit « Alors vous trouvez la France vulnérable ?» Il lui dit « Non, non, c'est ce que trouve... » Elle hurle « Vous, c'est ce que vous trouvez, vous !» Enfin, elle n'en peut plus, il faut qu'elle obtienne son truc. Et non, là, il dit non, c'est ce que trouve la Cour des comptes. Lui, il joue son jeu. C'est ça qui est génial. Lui, il a sa partie de banquier central à jouer. Et ce qui est vraiment intéressant avec la journaliste, c'est qu'elle a une vision un peu floue quand même de ce qu'il faut qu'elle obtienne. Elle sait qu'elle a un bingo général, mais elle n'a pas le sens précis de chacun des protagonistes. Et c'est vrai que quand on voit cette émission, alors ça fait partie de ce que je voulais te dire tout à l'heure, quand je te disais qu'on m'avait dit ça pour le conseiller Pôle emploi à qui on savait quoi répondre. L'autre chose qui m'est arrivée avec le podcast, c'est que des gens, avant le livre donc, des gens m'ont écrit pour me dire « c'est super, j'ai entendu Pierre Moscovici à la radio, c'est hallucinant, c'est tout ce que vous dites dans le podcast ». Mais évidemment, puisqu'ils répètent tous la même chose. Mais tu vois, soudainement, t'entends Moscovici qui te dit « il va falloir faire des efforts structurels », c'est fini, tu sais ce qu'il a dit. Tu vois, normalement, tu comprends pas. Tu vois bien que tu te fais enfler, mais tu sais pas comment. Et donc, en fait, c'était ça l'idée. Et moi, ça me fait plaisir que ça marche. Tu vois, et c'est pareil si Nicolas Bouzou et Philippe Dessertines peuvent être démonétisés à jamais grâce au Lièvre et au Chapelier, tant mieux, tu vois. C'est un peu l'idée, quoi. Voilà.
Et c'est vraiment uniquement parce qu'on échange, parce que sinon, le geste est très heureux. Attends, et en plus de faire de faire de la littérature sur les comptes publics, sur la dette publique, c'est quand même quelque chose qui, à ma connaissance, n'est pas vraiment arrivé. Donc,
Peu au 18e.
Ouais.
Ils avaient peur de rien.
Ça fait longtemps, quoi, du coup.
C'est ça.
Merci beaucoup, Sandra.
Merci à
beaucoup.
Vous.
Cool.
C'est bien, on n'a pas trop débordé, hein, je crois.
Je te voyais.